Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour de la table, beaucoup de monde, hein, surtout de cortèges de têtes, hein, une formation d'acteurs, de lecteurs, de relayeurs de paroles. À la suite, nous avons à commencer par Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Lise-Marie.
Bonjour.
Clément.
Bonjour.
Karim. Bonjour. Et Abdel.
Yo.
Et à côté, nous avons ensuite Lucie et Nadine.
Bonjour.
Bonjour. Et qui sont toutes deux présentes pour présenter aussi la perruque.
Alors, la perruque, du coup, on est trois personnes. Nadine, ici présente. Yeva, qui n'est pas là, qui est à l'atelier aujourd'hui. Et moi-même, Lucie, donc La Perruque est une asso et on est basé à Barmave. Nadine et moi, on est plasticienne, artiste plasticienne, Yeva est anthropologue. Et toutes les trois, nous avons décidé d'inviter l'équipe de Cortège de Tête à venir présenter leur performance théâtrale dans le Diwa.
Alors, pourquoi vous vous appelez La Perruque?
Alors, La Perruque, en fait, quand on a monté l'association, on a choisi un nom polysémique. Donc, La Perruque, c'est le postiche, ce qu'on peut porter pour se grimer, pour faire la fête. Et c'est aussi dans l'argot des métiers.
En loose dé.
Ouais, dans l'argot des métiers, c'est du coup faire de la perruque, c'est utiliser le matériel
du patron
ou de l'entreprise pour faire ses propres fabrications. C'est beaucoup utilisé dans l'imprimerie et voilà, du coup, on aimait bien ce mot à double sens. En tout cas, la question de l'économie de la production est centrale dans ce qu'on fait.
Cortège de tête, Lise-Marie, pourquoi ce nom?
Cortège de tête, pourquoi ce nom? Mais parce que on en fait partie, déjà. Qu'est-ce que c'est le cortège de tête? C'est pendant les manifestations, donc quand il y a des manifestations, il y a des rassemblements, et puis il y a donc des groupes syndicaux qui s'enfilent les uns derrière les autres. Puis à un moment donné, il y a eu une envie de débordement, et de ne pas forcément se retrouver dans les cortèges syndicaux, parce qu'on ne s'y retrouvait pas. Et du coup, ce débordement a fait qu'il y a une partie des gens qui se sont rassemblés devant les cortèges syndicaux, et ça s'est donné comme nom cortège de tête, du coup, du fait qu'ils soient tout devant. Donc voilà, ça c'est la première explication. Nico, tu pourrais rajouter un truc ?
Karim, il a envie de parler.
Là. Ouais, merci. En fait, traditionnellement, ce bout de cortège-là se situait plutôt en fin de manif, était en traîne de manif. Et chose un peu nouvelle, c'est que ces gens-là ont décidé de se montrer un peu plus et d'assumer un petit peu plus leur parole en se situant devant et en prenant, si on peut dire, la tête de la manif. Voilà.
Ça n'a rien à voir avec premier de cordée.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, Yves?
Question.
Non, ce qu'on peut, on peut rajouter des choses. On peut essayer de raconter un peu qui il y a dedans, même si c'est-à-dire que c'est à la fois des gens qui font effectivement pas partie des syndicats, mais il y a des syndicalistes qui se détachent de leur syndicat et qui montent en cortège de tête. On trouve des précaires, des lycéens, on trouve des autonomes, des anarchistes. Enfin, il y a une diversité qui est importante.
C'est un peu la banlieue de
Manif. Et puis ça s'est pas fait non plus sans difficulté. C'est-à-dire que les syndicats, ils ont résisté à tout ça quand même. Il y a eu des bagarres physiques. Et puis alors là, on parle de quelque chose qui s'est passé quand même en 2016, pendant les manifestations contre la loi travail, enfin contre la loi El Khomri, dite la loi travail. Et puis la particularité quand même du cortège de tête, c'est que très vite, il s'est constitué autour d'un accord tacite qui était que chacun avait le droit de lutter selon ses propres modalités de lutte et acceptait les modalités de lutte des autres. Et donc c'est un lieu où notamment les casseurs sont les bienvenus, sont pas du tout ostratisés et même se servent du cortège de tête pour se rediluer après les actions. Voilà. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que au moment de la loi,
qu'on revienne sur ce titre de casseur, parce que c'est pas. Je pense qu'on peut pas utiliser sans précision. Qu'est-ce que ça signifie casseur? D'accord. Quand, où,
on
pourquoi, comment?
On va en parler.
Donc du coup, le fait que le cortège de tête prenne cette ampleur, ça correspond au moment de la loi travail à Paris, c'est ça?
Ouais,
c'est ça.
Ça s'est constitué autour de. À ce moment-là, il y a eu pas mal de discussions, je me souviens, Place de la République, au moment de Nuit Debout, où il y avait des discussions. Enfin, ouais, ça s'est constitué, je dirais, en mars, quoi. Mmh.
Enfin, le terme de cortège de tête, c'est. Il vient de ce moment-là.
Ouais.
Après la pratique, moi, je me questionne sur, par exemple, sur les manifs des mineurs dans les années fin des années 70, début des années 80, si ce phénomène-là de prendre la tête des cortèges et de s'exprimer de manière un peu plus directe, c'était déjà pas en vigueur à ce moment-là déjà.
Parce que effectivement, c'est ça qu'on peut dire aussi, c'est que c'est aussi d'autres pratiques de manifestation. Tout à l'heure, Lise Marie, elle parlait des cortèges syndicaux, donc. Les ballons, les chansons un peu qui reviennent, des ritournelles, etc.
Les sonos à fond.
Les sonos. Là, il y a d'autres pratiques quand même.
Mais surtout que prendre la tête d'un cortège, ça donne une couleur au cortège. Et cette couleur, justement, elle change suivant le groupe qui prend la tête. Donc en l'occurrence, là, quand c'est ce type de gens là qui se retrouvent de manière informelle, mais en même temps très solidaires, eh bien, il y a parfois même la possibilité de dériver. Dans le sens de Bordien, c'est-à-dire prendre des tangentes à la manif. Et là, tout est possible. Enfin, un autre possible.
Vous semblez avoir été présent à ces Nuits Debout, où vous y avez participé aussi. Et je voulais savoir, est-ce que chacun pourrait peut-être, par quelques mots, résumer ce moment?
Clément?
Moi, Nuits Debout, en fait, j'y étais pas vraiment. Donc, je peux pas trop en parler. Enfin, en fait, j'étais à ce moment-là, c'était... J'étais pas encore politisé comme je l'étais l'année plus tard où j'ai rencontré la bande de Cortège de Tête. Mais en fait, on y allait un petit peu comme ça pour prendre des apéros, mais sinon. Mais c'était quand même une bonne partie. Enfin, c'est ça qui faisait aussi Nuit Debout, c'est qu'il y avait tellement une masse de monde qui venait s'y agglomérer que finalement, ça créait un lieu de lutte qui était protégé par toute la populace qui traînait par là, les gens. De tous les quartiers qui venaient zoner ici, du coup, je pense que ça c'était important. Donc, j'ai pas participé très activement à ces Nuits Debout, mais je faisais partie de cette masse qui faisait un peu le truc.
Ouais, et en tout cas, pour ma part, moi, Nuits Debout, ça a aussi été un élan assez naturel, un élan assez. Bah, c'est venu un peu progressivement et subitement en même temps. On s'est tous retrouvés, enfin, pour ma part, et Lise Marie, Nico, Karim, Reda, on s'est pratiquement rencontrés par là, dans ces Nuits Debout, à Paris, et ça a un peu changé un peu la vision de beaucoup de personnes, ça a créé une nouvelle forme de rencontre entre beaucoup de personnes qui ont, c'est pas convergé, mais qui sont recentrées vers le même point, quoi.
D'ailleurs, vous tous, vous vivez tous à peu près dans la même région ou vous êtes très dispersés?
Maintenant, on est un peu dispersés.
Ouais. On est un peu dispersés. Ouais.
Surtout dans nos têtes.
Voilà. Alors, ce moment Nuit Debout ou être en tête de cortège avait une signification pour vous, certainement. Et est-ce que vous pouvez la résumer aussi? Quel était ce motif?
Pour ma part, C'est vrai que à chaque fois que j'étais en manifestation, j'étais souvent sur le trottoir parce que j'arrivais pas vraiment à me retrouver dans les cortèges syndicaux ou même le NPA. Donc j'étais souvent voilà un peu seule avec soit un enregistreur, soit à l'époque j'avais une caméra Super 8, soit j'avais des petites pancartes sur moi avec des textes que j'avais écrits. Et puis en fait, grâce à ces Nuits Debout, à ce moment sur la place de la République où il y a eu ces premiers départs de manifs, que ce soit des manifs sauvages ou des manifs organisés, et qu'il y a ce cortège de têtes qui s'est constitué, je ne sais pas trop comment, mais d'une manière assez naturelle, ça m'a semblé évident que c'était l'endroit dans lequel j'avais envie d'être, parce que justement il y avait tellement de différences. Les gens étaient tellement singuliers dans ce cortège-là que je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé une place maintenant où j'ai envie d'être en manifestation.
Oui, Clément ?
Non, c'était juste pour rajouter. Du coup, moi, j'avais jamais fait de manif, enfin, j'avais quasiment jamais participé à une manif avant tous les cortèges de tête. Et en fait, je comprends même pas pourquoi ça existe une manif sans cortège de tête. C'est-à-dire que c'est juste un défilé sinon, et puis... Enfin, je sais pas, pour nous, ça n'a aucun sens. En fait, le cortège de tête, pour moi, c'est le petit bout de manif qui sert à quelque chose, en fait, tout simplement.
Et qu'est-ce qui vous a animé à vous réunir et à vous maintenir ensemble au point de créer, par exemple, le cortège de tête, Karim ?
L'amour. L'amour d'être ensemble. Ensemble, pas tous les cinq, mais ensemble au sein du cortège de tête. Je dis ça un petit peu naïvement, mais c'est vrai que ce qui nous lie dans le cortège de tête nous lie différemment, je crois, à comparer des autres cortèges syndicaux. C'était quoi ta question, Yves ?
Qu'est-ce qui vous a animé au point de rester et puis même de créer cortège de tête ?
Nico ? Clairement. Que tu peux raconter la genèse, ouais, de cette histoire.
Alors, juste d'abord, toute petite, peut-être, je voudrais juste rajouter un petit chose sur le cortège de tête des manifestations. C'est quand même, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de service d'ordre. C'est un cortège qui a du coup un aspect qui est frappe. Enfin, moi, c'est ça qui m'a frappé quand je l'ai découvert. C'est qu'il a un aspect vivant, débordant, joyeux. Enfin, voilà. Comment ça s'est passé? En fait, c'est ce qu'on raconte dans le spectacle. Ce qui est difficile, là, c'est d'expliquer quelque chose qu'on raconte. On a choisi une forme poétique pour raconter ça. Et c'est pas un hasard, c'est que c'est des choses qui sont un petit peu difficiles, que les médias n'avaient pas du tout saisi à l'époque, que les préfectures de police encore moins, et qu'on a choisi cette forme poétique de raconter les choses parce que c'était la seule façon de vraiment essayer de saisir des choses qui sont pas saisissables forcément par l'explication, le didactique, parce que on parle de liens, de rencontres, de choses fragiles, de ténues, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés
un peu subitement
autour d'une arrestation assez violente d'un des nôtres qui est pas là, Reda, qui est remplacé par Clément. Reda est dans un lycée professionnel, il a été, son école a refusé qu'il vienne avec nous là pour faire ces dates-là. Il s'est fait arrêter un soir, Lise Marie était témoin de l'arrestation, elle a rencontré par ce biais, un soir de 2016, elle l'a rencontré par ce biais-là, Abdel qui suivait l'arrestation de Reda, elle m'a appelé, enfin bref, en fait on s'est tous retrouvés ensemble. Place de la République,
Radio
ce soir-là, à Nuit Debout, autour de Radio Debout qu'animaient Lise Marie et Karim à l'époque, notamment. Et on a, voilà, on s'est rencontrés comme ça, et puis petit à petit, au gré des manifs, on se revoyait, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un truc extraordinaire, c'est que c'est des gens qui ne se seraient pas rencontrés dans la vie normale. Et ça racontait quelque chose de particulier, c'est-à-dire que le cortège de tête, c'était un espace qu'on avait constitué, on était des milliers, mais peut-être qu'inconsciemment, on avait constitué un espace de rencontre où il pouvait y avoir des rencontres inédites, inattendues. Et moi, ça faisait un moment que j'écrivais de mon côté tout seul dans mon coin quand je revenais des manifs pour témoigner. Et je cherchais une façon de témoigner du collectif et de plus témoigner tout seul. Et un jour, en fait, dans ma tête, les choses tournaient et j'ai mis nos 5 prénoms à la suite. Lise Marie, Karim, Abdel, Reda, Nicolas, nos âges. Et je me suis dit, mais là, en fait, si on arrive à raconter très simplement l'histoire de nos rencontres, on a un truc de dingue. Voilà. Et donc, j'ai proposé à ces personnes qu'on écrive ensemble d'où on vient, juste comment on est rentré dans les manifs, qu'est-ce qu'on y a fait, jusqu'à à comment on s'est percuté, rencontré, aimé, etc. Voilà comment ça s'est fait. Et ce qui est extraordinaire, surtout, c'est qu'on ait réussi à le faire, quoi. C'est-à-dire qu'on ait tenu les écritures, qu'on ait tenu les représentations et qu'on continue, ça c'est pas
fini. Ça s'est fait simplement aussi, ça s'est fait naturellement, c'était aussi naturel, c'est venu subitement quand on s'est rencontrés, c'était un peu un élan. Moi, je vous connaissais pas forcément, vous n'étiez pas forcément le style de personne que je fréquentais au quotidien, pour ma part en tout cas. Et bah, pour moi, ça a été un vrai élan, quoi.
Dis-nous d'où tu viens, toi, par exemple.
Moi, je viens de la banlieue parisienne, car yo, je viens de Stein, dans le 93, c'est une ville assez compliquée en apparence, puisqu'elle est, c'est issu en fait pendant la guerre d'Algérie, il y avait des marécages à cet endroit-là, dans le 93 à Stein, quoi. C'est des marécages, et ils ont voulu faire une ghettoisation, en vrai, tu vois. Ils ont voulu regrouper un tas de personnes qui étaient là dans des bidonvilles, et donc ils ont construit plein de bâtiments, ils ont asséché le marécage, et du coup ça a un peu fait une cage à poules, quoi. Et du coup, d'où là-bas, c'est devenu un peu populaire, des quartiers vraiment populaires et vraiment dans la précarité. Voilà, et moi, quand j'ai vu Paris, quand j'ai vu les manifs, quand j'ai rencontré Nico, Liz, Karim, Reda, pour moi, ça a complètement changé. Je suis passé de, on va dire, de wesh wesh à bonjour. c'est assez extraordinaire, en tout cas pour moi.
Abdel, tu parles d'avoir découvert une ville comme Paris. Ça voulait dire que tu n'étais jamais sorti de ta ville?
Si, j'étais sorti. Bon, c'était exceptionnel. C'était pour moi, quand j'allais à Paris, c'était waouh, je vais à Paris. Ça préparait toute une organisation. On devait se préparer pendant une semaine pour aller à Paris. Et pour une semaine pour aller à Paris, c'était pour aller voir les Champs de Mars et la Tour Eiffel. Pour aller claquer son argent, faire plaisir, tu vois, essayer de. Voilà. Bah voilà, moi, ça m'a complètement changé, puisque par la suite, après notre rencontre, j'ai eu des difficultés sur Paris aussi. Ça m'a obligé un peu à partir. Enfin, j'avais envie de partir. J'ai atterri à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je suis resté un bon moment là-bas aussi, quand même. Il m'arrivait plein de péripéties bizarres. Et maintenant, voilà, maintenant, je suis sur Bordeaux. J'ai fait un peu toute la France. Je suis sur Bordeaux, on héberge des migrants. Voilà. Je suis parti du Squid. Voilà, quoi.
Je reviens à ma première question. Où vous vous situez par rapport au premier de cordée?
Bon, si tu fais référence j'imagine que si tu poses la question, c'est que tu fais référence à Macron. Enfin, en tout cas.
Il y a 2 ans, vous mettiez en tête de cortège parce que vous n'arriviez pas à vous situer dans le panel syndical ou voire même politique.
On n'arrivait pas à se situer. On s'est situé autre part. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivait pas à se situer, en l'occurrence.
Voilà, mais par rapport à ce qui était proposé, ouais. Je parle. Hein, ouais. Donc, d'où votre situation en tête de cortège. Mmh. Macron est venu, il a lui-même bouleversé toute la politique française. Vous n'êtes pas d'accord?
Avec le fait qu'il est bouleversé, non, il n'a rien bouleversé du tout. Il fait une politique néolibérale comme...
Non, mais je parle de la politique française. Hein. Je ne parle pas du système d'État. Je ne parle pas de l'exécutif, je parle au niveau politique.
Ah oui, d'accord. Oui.
Voilà, il a anéanti les principaux partis politiques. Est-ce que pour vous, ça...
Le fascisme, ce n'est pas nouveau.
Le fascisme, allez-y, nouveau, ouais. Hein, expliquez.
Eh ben, juste, En Marche, Emmanuel Macron, EM. Est-ce qu'on connaît beaucoup de partis politiques qui ont les initiales de leur leader, à part El Duce? Voilà, c'est juste une question que je pose.
Voilà, une belle remarque. Et puis, on peut aussi penser à Marche ou Crève. Hein. Ouais. Voilà.
Marche ou Rêve, c'est mieux.
Marche ou Rêve, ouais, aussi. C'est mieux, c'est pas... Donc pour vous, ça n'a rien changé, hein, cet avènement au niveau national.
Il fait toujours la même politique, une politique néolibérale.
C'est juste plus assumé, quoi.
Ouais, pour les riches, à peine assumé, hein, parce qu'il dit qu'il va faire les choses aussi pour les pauvres, mais quand on regarde à chaque fois, c'est pour les mêmes, hein, c'est pour les riches. Donc,
dire le clivage droite-gauche de base sous lesquels ils se cachaient un petit peu avant, maintenant, c'est, en fait, ça a été assumé, ils ont tout... Maintenant, ils ont assumé le côté néolibéral et tout. Et puis, enfin, voilà, ils essayent plus de se cacher derrière des trucs socialistes comme Hollande l'a fait. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est révolu. Avec En Marche, etc.
Lise-Marie ?
Bah, quand même, ce qui a changé, c'est peut-être que ça nous a rapprochés encore plus, je dirais, que ça a permis de constituer des groupes, des collectifs, des envies de... Bah, de continuer à faire des choses justement sur le trottoir ou dans des espaces enfin, moi j'attendais pas grand chose de la politique telle qu'elle est représentée, mais du coup de créer du politique dans des endroits, dans des quartiers, que ce soit sur la place de la République, que ce soit en manifestation, dans des rassemblements, dans des envies de faire des choses ensemble. Donc peut-être que ça a renforcé cette envie de se dire, bon, maintenant, en fait, on est un peu tout seul. On est tout seul, mais on est pas mal. On est un certain nombre. Et organisons-nous. N'attendons pas quelque chose d'eux. Donc, allons-nous chercher les choses. Créons-les. Imaginons-les. Voilà. Je pense que ça, pour moi, ça a été important. Ça a vraiment permis ça, peut-être, cette élection, finalement. Et... il y a un endroit où, pour moi, c'est plus comme avant sur un endroit de l'individu et de l'endroit du collectif. Il y a quelque chose qui vraiment s'est ouvert complètement.
Je ne sais pas, ça me fait penser à quelque chose, c'est que pour revenir au cortège de tête, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement des corps, de refaire de la politique avec les corps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils manifestent, montent au cortège de tête, mais qui aussi le reste du temps font de la politique, pas en votant ou je ne sais quoi, mais en engageant leur corps dans des actions avec les migrants ou dans leur quartier, etc. C'est un peu ça aussi que tu dis, c'est-à-dire que les rencontres qui se sont faites au cortège de tête, elles existent par-delà les manifestations, et pas juste en temps de manifestation, mais en fait au quotidien, dans la vie. Et là où on n'attend rien de la politique, ni de Macron, ni de Hamon, c'est l'envie de se retrousser les manches et de faire par nous-mêmes les choses, en fait.
Vous êtes là pour cortège de tête, hein, on revient quand même sur le sujet principal, qui se résume en une conférence imaginaire sur le réel, suivie d'une discussion. Alors, cette conférence imaginaire, elle a été coécrite par vous tous, je suppose ?
Ben, y a pas réellement de part d'écriture. En fait, ça a commencé par déjà des premiers enregistrements, déjà une rencontre avant l'écriture qui a commencé. Après, au fur et à mesure, on a échangé nos contacts, on a commencé à discuter. Il n'y avait pas forcément de projet de base. Et après, ça a fini par, au fur et à mesure du temps, on a fini par se rencontrer, bien se connaître et avoir envie de porter une parole un peu plus réaliste, un peu plus concrète, parce que les médias, enfin, quand on voit un cortège de tête en manifestation à la télé, on dit forcément que soit c'est des casseurs, soit c'est des temps, mais personne ne dit pourquoi il y a ces casses, pourquoi il y a ce cortège là qui existe, quoi, et qui est une fois après là, notre part d'écriture, c'est après chacun a écrit, on a commencé par des portraits de soi, puis après qu'est-ce qui nous animait, comment... Après, ça a fini par un récit de manif. Et en fait, au fur et à mesure, parfois, on se connaissait pas encore. On remarque que dans des manifs, on a souvent le même récit. Le même récit, que ça coordonne beaucoup. On voit souvent les mêmes choses, alors qu'on se voit pas forcément dans les manifs. Qu'on n'est pas forcément... Mais pourtant, on voit les mêmes choses, la même réalité qui est dure. Et voilà, Après, ça, chacun écrit sa part, quoi.
Luce-Marie ?
Oui, tu veux lancer le... Je trouve que ça imagine... Enfin, ça donne à voir et à comprendre un petit peu qui était dans le cortège de tête.
Dans le cortège de tête, il y avait aussi des gens comme...
J'ai pas mes
comme ce monsieur...
Dans le verre,
C'était ah, sur la place.
C'est beau, ouais. Ça. Tu fais quoi dans le verre ?
Du verre ?
Nation.
On est plus fort dans le verre creux que dans le verre bleu.
Et
Saint-Gobain.
Je faisais de la radio, il y avait des lacrymos partout. J'étais toute seule avec mon enregistreur que je tenais en l'air. Et deux, trois gars sont passés devant moi et ont dit une phrase que j'ai relevée. Et du coup, la conversation a commencé et voici la rencontre.
Ouais.
Et tu viens chaque du fois verrier. Pareil, bah ouais. Avec ton groupe
Bah oui, ça sert à rien de dans la campagne, ils s'en foutent de la campagne.
Vous êtes bien mobilisés, vous, sur votre...
Ah bah nous, l'usine, elle est fermée, on débraille.
Elle est fermée depuis quand ?
Bah, chaque jour qu'il y a un mot d'ordre de la CGT, nous, on ferme l'usine. On est réquisitionné parce qu'on est dans une société de merde. Mes boulots au but. Hein.
Toi, tu bosses dans quoi, toi ?
Dans le verre, moi.
Dans le verre, c'est ouais. Quoi ça? Tu fais quoi dans le verre?
Du verre? On est plus fort dans le verre creux que dans le verre bleu. Saint-Gobain. Hein? On est à Saint-Gobain.
Ah, Saint-Gobain, c'est une grosse perche, ça. Saint-Gobain.
Ouais, Saint-Gobain.
Ouais, c'est connu.
Ah ouais.
Un peu trop.
Hein? Ouais, un peu trop.
J'ai reçu l'ordre de faire évacuer la place, ça y est.
Ah bah ouais, ça
c'est
sûr.
Ils ont rien à foutre là.
Et tu as fait toutes les manifs?
Ouais.
D'accord. Depuis le début.
Ouais,
et
ouais.
Tu viens chaque fois à Paris avec ton groupe
Bah oui, ça sert à rien dans la campagne, ils s'en foutent de la campagne.
Vous êtes bien mobilisés, vous, sur votre...
Ah bah nous, l'usine, elle est fermée, on débraille.
Elle est fermée depuis quand ? Ça
revient ! Bah, chaque jour qu'il y a un mot d'ordre de la CGT, nous, on ferme l'usine. On est réquisitionné parce qu'on est dans une société de merde qui est comme en 39, qui nous réquisitionne, mais on est là, mais bon. On n'a plus le droit de grève dans les usines. C'est ça le bordel.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes obligé de bloquer l'usine ?
Bah ouais, t'es réquisitionné. Ceux qui sont en repos, ils viennent manifester. Et ceux qui sont au boulot, bah, ils sont en grève, mais ils sont obligés de...
Ils restent sur place. Ouais. Et ils gardent l'usine.
Voilà.
Ouais. Okay. Et toi, c'est quoi ton salaire, si je peux te demander ou pas ?
Mon salaire ?
Ouais. Ça fait combien de temps que tu bosses dans cette
usine ? Moi, ça fait 20 ans. C'est aléatoire parce que tu sais, je bosse les dimanches, les jours fériés. Je suis dans les 2000 euros à peu près. Mais les nuits, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de. On travaille tout le temps, ça faut continuer. Parce qu'on travaille à la chaleur, donc c'est des primes de chaleur, c'est les primes de la poussière, donc c'est l'amiante. Et puis tu travailles le dimanche, tu travailles les jours fériés, tu travailles la nuit.
C'est quoi vos habits ?
Vos habits ?
Ouais.
Bah, c'est un bleu de chauffe.
T'as un masque aussi et tout ça ?
Ouais, bien. T'as un masque à poussière ?
Ouais, mais ça protège pas vraiment.
Non. Bah, ça serait si en France on protégeait ses ouvriers.
Et il y a des mecs qui sont tombés malades de
Ah bah t'as des morts, t'as plein de morts. L'amiante, c'est une saloperie.
Vous êtes combien dans l'entreprise à travailler ?
On est à 1000.
Attention.
Courez pas ! Courez pas !
Je suis écolo, je suis à gauche, à l'extrême gauche. Hein. Tous ces trucs-là, ça me plaît. C'est toute cette putain de société qui me dégoûte.
C'est là, ton daron, il est bien poilu.
Ah, mais j'ai pris dans les deux.
Je suis marié, j'ai 4 gosses, mais ça me dégoûte. Ça devrait être même pas moi qui devrait être dans la rue. Je comprends pas qu'on n'est pas plus nombreux. On devrait foutre tout ça dehors. J'ai voté Valls. Hein. Bah, Valls. Hollande. À demain.
Et alors là, tu te sens comment par rapport à tout ça ?
Bah, malheureusement, je suis tellement pessimiste que je vais revoter Hollande dans un an.
Ah, tu vas revoter Hollande ?
Bah ouais, on n'aura pas le choix. C'est soit la pute, soit Hollande, donc je suis désolé, mais t'sais, moi j'ai ma famille qui est morte dans les camps de concentration parce qu'on était communistes. Je peux pas voir l'extrême droite, ça me fait vomir. Donc j'aurais pas le choix.
Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui votent pas, qu'il y a un risque pour que l'extrême droite passe.
Non, ils passeront pas. Ils passeront pas, mais à choisir. Je préfère Hollande que Juppé. Voilà. Je suis secrétaire du syndicat à Saint-Gobain. C'est camarade de l'UGIT, la maîtrise. Ouais, nous on est CGT. Tu vois, on n'est pas extrémiste, mais... Oh, moi j'aime bien les vieilles chansons.
Comme quoi ? T'en as une tu chantes parfois ?
Ouais.
Ce serait quoi qui viendrait là ?
C'est le chant des marais.
Vas-y.
Loin vers l'infini s'étendent de grands prés marécageux, où les gens s'étendent de grands prés marécageux, Le refrain, c'est « Piocher, 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 loin vers l'infini s'étend de grands prés, marécageux. » Oh là, ça va peut-être bouger. Bon. Ils ont que des gosses en face, hein. Le soir qu'ils auront des ouvriers, ça sera autre chose.
Ouais, ça c'est sûr. On va se barrer quand même. Ce jour, nous, on va chercher les
ça sera autre chose.
Mais quand ça sera les ouvriers, ce sera autre chose.
Là, c'est les gamins.
Oui. Ça ne sera pas déjà le truc du cul.
C'est les gamins.
Là, c'est les gamins. Ah. Ça sera autre chose.
Ouais, attention.
Mettez gaffe.
Voilà, nous reprenons la parole après cette écoute donc qui s'intitule Bouns Verrier. Est-ce qu'on peut nous expliquer ce titre ?
Non, le Bouns, non. Oui, c'est Verrier, j'ai pas vraiment de titre. Le Bouns, c'est quelque chose de technique en fait qu'on fait pour consolider un projet une fois qu'on l'a monté. Donc voilà, Verrier, le Verrier. Parce qu'il est Verrier. Voilà. C'est une des composantes du cortège de tête. C'était, je crois, le 26 mai 2016. Et on avait commencé à écrire déjà.
Oui.
Donc on avait commencé à écrire et on ne s'était pas encore rencontrés. Enfin, on s'était rencontrés, mais...
On pourrait demander à Nadine et Lucie pourquoi elles nous ont invitées à venir présenter notre travail.
À faire ses représentations.
Ses représentations.
Et Yéva, hein, qui n'est pas là, mais Yéva, qui est avec nous.
Trois représentations. Une représentation ce soir à Saint-Dizier, jeudi 4 octobre, à Saint-Dizier, 20h30, après le petit marché.
Au temple.
Au temple. Une représentation samedi 6 octobre à 10, à la Chaudière, 8 rue des Amis.
À 19h30.
À 19h30. Le 7 octobre à Saillant, à la salle des fêtes, à 18h. Avec la collaboration de Voix Libre. Participation libre, buvette sur place. Et si vous voulez grignoter un truc, ben, vous l'amenez, vous partagez.
Et que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'on raconte, venez justement pour en discuter.
Venez. En fait, c'est l'occasion de parler de la forme de nos luttes, de ce qui nous soulève et comment est-ce que ça nous anime. Et c'est ce pourquoi, avec Lucie et Yéva, on a voulu inviter Cortège de Tête. Pour nous, la Cortège de Tête, ça a mis en évidence une violence étatique, au même titre que les événements qui ont eu lieu sur la ZAD l'année dernière, et l'investissement de groupes pour accueillir les migrants. Voilà, ça met en évidence la violence de l'État, dont il est intéressant de parler.
C'est avant l'été. Alors c'est marrant parce que vous parlez de violence de l'État et généralement, quand on entend cortège de tête, on entend parler de la violence des manifestants.
Oui, tout à fait. Du coup, pour nous, ce qui nous questionne encore, c'est la question aussi de la représentation qu'on peut se faire justement de différents groupes quand on en est éloigné et qu'on ne vit pas de l'intérieur. Et donc, la représentation qu'on peut avoir du cortège de tête. Et puis particulièrement ici, où dans le Diwa, voilà, on vit dans une zone rurale, éloignée des centres du pouvoir. Et du coup, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des représentations erronées de ce qu'a pu être le phénomène du cortège de tête pendant les manifs contre la loi travail, au même titre qu'on peut aussi se construire une représentation erronée de ce que peut être un zadiste à Notre-Dame-des-Landes.
Un migrant.
Un migrant, voilà. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant que vous veniez, puisque vous livrez un récit de l'intérieur. Il me semble que, en fait, le texte que vous avez écrit, il permet de comprendre ou d'entrevoir... Quelle est la diversité qui compose le cortège de tête. Et puis aussi que, du coup, un collectif spontanément construit comme ça, il est traversé par des individus avec des trajectoires singulières. Et voilà, ça nous paraissait vraiment... Enfin, c'est quelque chose qui nous a touchés à la lecture du texte.
Et moi, j'ajoute que en fait, nous, on a suivi le cortège de tête, on a suivi les manifestations contre la loi El Khomri à travers les posts de Nicolas pendant les manifestations. Donc, ça nous a permis à nous...
Les posts sur les réseaux
sociaux. Ça nous a permis à nous d'avoir une lecture aussi de l'intérieur du cortège de tête. Et quand on a vu, donc il y avait ça, il y avait la présence aussi dans les AG des cheminots, et de voir qu'il était présent à plusieurs endroits, et de voir sous quelle forme il rendait compte de tout ça, qu'il y avait une forme écrite et littéraire, ce qui nous est, nous, en qualité de plasticienne, ce qui nous parle, ce qui nous interpelle, de quelle forme on donne, et comment on crée du sens. Voilà. Et quand on a vu qu'il y avait un texte et un atelier d'écriture qui avait été mené par Nicolas, avec Nicolas et avec vous cinq, entre vous cinq, du coup tout de suite on a eu envie d'entendre ce texte. On est loin. Et nous on a envie d'entendre. Donc forcément il y a d'autres personnes. Nous on avait très envie d'entendre ce texte. Et si ça nous intéresse, nous, ça intéresse forcément d'autres personnes ici sur ce territoire, le Divois, qui n'ont pas eu accès à ces récits de l'intérieur. Ou peut-être oui, mais avec d'autres récits, d'autres personnes qui avaient intégré le cortège.
Les récits de l'intérieur du cortège. Voilà.
Clément. Et on a très envie de partager ça avec tous les Divois.
Clément.
Oui, vous me direz, parce que moi j'étais pas à la base de l'écriture de la pièce. Mais quand la pièce Cortège de tête, elle sert à restituer une mémoire qui nous est volée en fait en permanence par la médiatisation, par tous les médias confondus de ces moments, de ces temporalités de manifestation. Et voilà, c'est vraiment pour restituer notre mémoire et la diffuser pour qu'on en garde des traces en fait, fait par les traces du Cortège de tête, par le Cortège de tête.
Cette histoire de mémoire, quand cette mémoire elle nous est pas volée, elle est réécrite. Et pour poser un petit peu les choses, tu faisais référence au post de Nicolas Flèche sur Facebook, qui retrace, pas au jour le jour, mais de manière un peu littéraire et assez exhaustive, ce qui se passait pendant ce mouvement. Il y a aussi des archives de Radio Debout qu'on a fait à quelques-uns sur la place de la République, pendant qu'elle était occupée pendant ce mois de mars, avril, mai et juin. Et compagnie, et qu'on peut retrouver sur le net, sur SoundCloud, je crois. Il y a toutes les archives de Radio Debout. Et puis aussi, ce texte-là, si les gens qui nous écoutent ne vont pas pouvoir venir à ces trois représentations-là, qui ont lieu ce soir, eh bien, on a aussi eu la chance de pouvoir éditer le texte qui va être donné ce soir dans un bouquin qui va sortir. Et ça aussi, c'est pour aussi faire un travail de mémoire, ce texte-là.
Oui, mais de toute façon, tu as dit ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand c'est cristallisé, enfin, la bonne idée de pouvoir témoigner à cinq, parce que...
Nicolas.
Ouais. Il y avait effectivement ce besoin... Et cette urgence de nous raconter nous-mêmes, de nous réapproprier notre histoire, qui est effectivement confisquée par les médias dominants et qui construisent une histoire qui est la leur, de leur point de vue, donc forcément du point de vue des dominants. Là, c'était histoire de nous réapproprier par un acte d'écriture. Donc c'est revenir sur soi, travailler sur soi, revenir faire travailler sa mémoire.
Et dénoncer.
Ensuite, le donner. Donc on l'a d'abord donné dans des théâtres. Tout de suite, le mouvement n'était pas fini, on l'a donné dans des théâtres immédiatement. Et puis, effectivement, là, il y a des historiennes qui, Mathilde Larère et Laurence Decoq, qui veulent éditer le texte parce qu'elles ont trouvé qu'il s'inscrivait dans une perspective historique, elles y voyaient des échos avec 1848, etc. Et donc, du coup, pour nous, c'est quand même hyper satisfaisant de se dire qu'on a fait tout ce travail d'écriture et qui va aboutir jusqu'à laisser une trace. Dans les bibliothèques, quoi.
Abel.
Ouais, carrément. Enfin, mais moi, dans la continuité des choses, j'ai pas grand chose à ajouter, mais en fait, c'est aussi un travail de dénonciation. C'est, franchement, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à me situer, en tout cas, à savoir, à comprendre ce qu'on fait ici, à comprendre à quoi on sert et comment, en tout cas pour ma part, on va réussir, ou j'espère, à retranscrire tout ça et à montrer la violence de l'État. Parce que, en réalité, le cortège de tête, ça a beau être décrit comme violent, la violence, ça serait pas là si en face, on n'aurait pas des gens violents aussi. Toi. Du coup, c'est une belle expérience. Quoi.
Ça, vous pouvez peut-être nous développer un peu ou préciser un peu les ambiances. Alors ça peut être en rapport à la violence, les ambiances à l'intérieur du cortège de tête, et puis aussi peut-être de manière plus générale, l'ambiance contextuelle à Paris, dans un Paris post-attentat.
Ouais.
Donc comment tout ça, donnez-nous un peu le climat, parce que c'est vrai que nous, vivant loin de la capitale, on a peut-être un peu de mal à se représenter ça aussi.
Bah écoute, en termes de... Pour se resituer le climat, justement, on a un son qui nous remet bien dedans.
Eh bien, je propose même qu'il soit le bouquet final de cette émission, puisque l'heure arrivant à son terme. On va peut-être refaire un petit tour de table. Moi, ce que je voudrais savoir, quelles étaient vos professions? Quelles sont vos professions aussi et qui ont peut-être permis aussi de vous retrouver
Donc, Lise-Marie moi, je travaille à la radio. Voilà, je travaille à Radio France depuis quelques années. Voilà. Aujourd'hui, je réalise des émissions. Avant, j'étais assistante à la réalisation. D'où mon implication aussi, l'envie de participer à cette histoire de Radio Debout. Voilà, qui était quand même une expérience incroyable. Incroyable. Tous les jours, 6 heures par jour, de l'antenne en direct, fabriquée avec plein de gens. Voilà, c'était vraiment, je pense que ça c'est important aussi, ça va être vraiment au cœur pour des gens qui n'auraient pas suivi, c'est vraiment cette fameuse trace, ces archives par cette radio, par ce média, ça permettra à des gens de pouvoir, dans quelques années aussi, pouvoir entendre ce qui s'est joué en 2016.
Et du coup, Yves, on peut sans doute indiquer le lien de Radio Debout sur le site de RDIWA pour bien que sûr. Chacun puisse s'y diriger.
Nicolas ?
Ouais, et moi je suis Nicolas Flèche et je suis auteur, comédien, voilà.
Flèche, ça s'écrit juste parce que tout à l'heure je faisais référence à tes posts sur Facebook, si les gens veulent retrouver tes posts, parce que c'est aussi une mémoire.
C'est FLESCH.
Voilà.
Et juste pour préciser, parce que Lise-Marie dit qu'elle participait à Radio Debout, il y a aussi des extraits dans le spectacle qu'on va donner là. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Karim et Lise-Marie faisaient partie de Radio Debout, on prit beaucoup de sons du cortège de tête. Et donc on pique comme ça nos témoignages oraux de prise de sons de l'époque.
Clément ? Alors moi, je travaille dans un atelier de gravure. Enfin, au quotidien, je fais ça. Et sinon, on a un collectif d'artistes qui s'appelle l'Atelier Les Mains dans le Dos. Et donc voilà, on est un collectif qui on intervient sur des lieux de lutte, etc. On fait des actions politiques et artistiques en mêlant notre savoir-faire. Voilà.
Karim.
Clément nous file ce coup de main là à la volée. Il remplace notre ami, camarade de lutte et de table, Reda. Reda est un jeune de 19 ans, voilà. Et bon, il n'est pas parmi nous, mais il est là avec nous dans nos cœurs. Et il a fait partie pleinement aujourd'hui du cortège de tête, de cette composante-là dans la rue et aussi dans le théâtre, comme on en a parlé. Et Reda est aujourd'hui en cours. Donc, il n'a pas pu venir avec nous ici, mais Voilà. Et moi, c'est Karim. Moi, je m'active, je sais pas, à faire du son, de l'image, des choses qui s'articulent autour de ça. Et puis aussi, un autre boulot, c'est je m'installe dans le Lot avec des copains.
Alors, moi, je m'appelle Abdallah. Je peux me considérer comme un, je sais pas moi, un électron libre, on va dire. Je suis un peu quelqu'un qui voyage et qui aime bien faire aider comme je peux aider, en tout cas. Enfin, maintenant, j'essaye de me séparer de mon ancienne vie un peu. Et voilà, moi, je suis à Bordeaux. Je fais partie d'un collectif autogéré qui s'appelle Le Squid. Bon, donc on héberge principalement des migrants, mais principalement aussi des personnes à la rue, quoi, en difficulté. Voilà, vous êtes la bienvenue, tous.
Et pour terminer, donc, il nous restait Lucie et Nadine qui mériteraient à elles seules toute une émission pour la perruque. Le temps manquant, eh bien, ça sera pour une autre fois. Je rappelle aux auditeurs.
On viendra.
On viendra, Yves.
Oui, merci. Je reviens donc sur le cortège de tête qui va être donc présenté ce soir, jeudi 4 octobre, au temple de Saint-Dizier à 20h30. Pour les gens qui écoutent pour ce soir, vous avez intérêt à vous dépêcher. Ensuite, le samedi 6 octobre à 10, hein, pour attraper à la Chaudière à 19h30. Et pour terminer, le dimanche 7 octobre à Saillant, à la salle des fêtes, à 18h. Donc la participation est libre. Et puis, il y aura toujours un petit peu de buvette et de grignotage, hein, c'est ça?
Ouais.
C'est partagé ou ça se trouve sur place?
Non, on ne part pas manger, en fait, on n'a pas le temps. Donc, si vous voulez ne pas faire que manger liquide, il faut apporter des choses à manger.
La perruque, est-ce que est visible aussi sur Internet?
Il y a une page. Il y a une page avec un dessin.
Voilà. En construction, donc.
En construction. Le site est en chantier.
Je vous souhaite tous une bonne soirée, oui. Et on termine donc avec un morceau qui s'intitule « Invective Flic ».
Ouais, juste pour resituer un petit peu le son qu'on va écouter là, qui s'appelle « Invective Flic ». Effectivement, c'est un manifestant qui s'adresse à des policiers de la BAC, de la Brigade Anticriminalité, qui sont plus aujourd'hui des gens qui seraient proches des sections d'assaut, comme des SA, des fameux SA, que de l'hirondelle du gendarme à vélo. Ils sont équipés de flashballs. Ils sont en train de mettre en joue des jeunes manifestants qui sont au fond d'une rue. Juste pour resituer un petit peu ce son-là.
Eh bien, je vous souhaite tous une bonne soirée et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Ah, c'est con que j'ai pas mes boulots au but. Hein.
Là, tu bosses dans quoi, toi?
Dans le verre, moi.
Ah, dans le verre, c'est quoi, ouais. Ça? Tu fais quoi dans le verre?
Du verre. Et on est plus fort dans le verre croc que dans le verre bleu. Ça dommage.
Ouais, c'est remonté, hein.
Ouais, vous êtes armés comme des militaires, allez faire la guerre, on vient casser les couilles aux civils. Hein, hey, vous avez peur de vous manger une balle, mais par contre tirer sur les gens, y'a pas de problème. Hey, trois flashballs, quatre même. Hey, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dites-moi, vous respectez pas l'être humain. Comment vous voulez être respecté si vous ne respectez pas l'être humain? Comment vous-même voulez être respecté? Hein? Eh, de toute façon, oubliez jamais, c'est un salaire à la fin du mois qui vous motive. Nous, rien à voir. C'est ma vie. Eh, oubliez jamais, jamais, c'est ma vie. Toi, c'est un salaire et une prime à la fin du mois. Tu veux payer ton crédit pour baiser ta meuf, mon vieux. Moi, je suis là pour moi. Eh, allez faire la guerre, allez faire la guerre au lieu de tirer sur des civils qui sont pacifistes. Allez vous faire tirer dessus pour de vrai, là. Eh, deviens mercenaire, mon frère, si t'aimes la guerre, deviens mercenaire, arrête de casser les couilles aux gens qui sont pacifistes. Eh, roule en mer, roule. Eh, vas-y. Eh, vous filmez tout le monde. Appréciez d'être filmé. Bah oui. Eh, vous êtes supérieur à personne, je vous le dis. C'est illégitime. Votre assermentation, elle est illégitime. Vous êtes illégitime. Vous avez l'impression de faire partie d'un gang, hein. Ça vous fait respirer, ça vous fait vivre, hein. Par contre, courser des petites 15 ans, ça vous fait plaisir, hein. Hein, putain de merde. Allez faire la guerre, arrêtez de nous casser les couilles. Vous voulez rendre service à la France? Allez mourir pour la patrie. Allez. Bah ouais, vous êtes jamais allé à faire la guerre, vous faites comme si vous étiez des soldats, arrêtez là. Civil, nous. Ouais, je suis civil.
Civil avec du civisme. Je ne sais pas si vous avez compris les deux mots, je suis désolé.